Europe 1,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on décortique tous les jours tous les aspects de notre vie quotidienne et surtout on tente de la rendre plus simple, plus douce. Alors ce matin, Julia, à quoi va-t-on s'intéresser ?
Eh bien, on va détailler ce qu'est le syndrome de l'abandon. Vous savez, ce sont ces personnes qui, à cause d'un traumatisme ou pas d'ailleurs, ont sans cesse la trouille d'être rejetées par tout le monde, leurs amis, leurs amours par exemple. On va faire le point sur ce mal qui peut empoisonner la vie de ceux qui en souffrent, mais surtout on va vous proposer de nombreuses solutions pour en guérir ou au moins s'apaiser. On va tout vous expliquer avec nos invités dans quelques instants.
Ensuite à 11h45, ce sera notre séquence tendance. Tout d'abord, Soizic Belin nous parlera de la mode du chant lyrique. Pour les néophytes, cela semble être comme un sport de haut niveau, c'est bien sûr le cas, mais il existe aujourd'hui des cours qui permettent à tous de tester cet art. Et puis il y aura aussi Perrine Brami, aujourd'hui dans la bande, notre chroniqueuse écolo. Ce matin, elle nous invite en vacances. Enfin, elle nous donnera de bonnes idées pour prévoir justement des vacances estivales plus vertes. Voilà, le menu du jour, bien fait pour vous, c'est tout de suite.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1, bienvenue dans votre émission Bien-être Feel Good. Et notre question du jour, la voici, la peur, le syndrome de l'abandon, comment le surmonter ? On va vous donner des tas de pistes pour y parvenir, mais avant cela, c'est Clément Lanoux qui a mené l'enquête sur ce sujet. Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde. Bonjour. Le sujet du jour n'est pas simple, effectivement, la peur de l'abandon, d'être mise au ban, bannie. Alors il faut savoir, je me suis renseigné que ça intervient pour beaucoup dès le plus jeune âge, à 8 mois exactement, ah. C'est ce que j'ai trouvé selon l'enquête. Donc j'aurais pu aller interroger des pédopsychiatres, mais j'ai préféré aller interroger des personnes directement concernées. Qu'en pensez-vous ? C'est fou, c'est troublant de vérité. Je pense que tout est dit, je vais quand même terminer la chronique. Effectivement, tout au long de sa vie, on peut être lié et pris par cette terrible angoisse. Souvenez-vous, le premier symptôme de l'abandon dont on se souvient, pour la plupart, c'est au même endroit.
La petite Julia et la petite Mélanie sont attendues par leurs parents en caisse centrale. S'il vous plaît.
Souvenez-vous, à l'époque, quand on était persuadé que nos parents étaient partis, qu'ils voulaient refaire leur vie, peut-être avec un autre enfant, et qu'on avait juste scotché trop longtemps en hésitant entre les Miel Pops et les Frosties. Donc je voudrais rassurer tous les enfants, on finit toujours dans les magasins par retrouver les enfants perdus, sauf évidemment chez Ikea. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils mettent des lits, des canapés, des tables. C'est des enfants qui sont perdus, qui vivent là-bas aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde le samedi, parce qu'il y a les clients et ceux qui vivent
les
là-bas depuis beaucoup trop longtemps, les habitants de ce magasin. Voilà, alors on pensait être clairement débarrassé en grandissant, en se disant je vais prendre confiance. Et puis non, à l'école ça revient aussi, vous savez, quand vous attendez que vos parents viennent vous chercher et que vous êtes le dernier et qu'on essaie de vous rassurer et que la maîtresse vous dit non, mais ça arrive souvent avec les parents divorcés, vous savez, ils sont peut-être trompés de jour. Et quand on répond bah, les miens ne sont pas divorcés. Et là, il y a le syndrome de l'abandon qui revient encore une fois. Et puis après, oublié sur une autoroute par le bus scolaire, syndrome de l'abandon encore une fois. Heureusement, ça se calme à l'adolescence. À l'adolescence, c'est plutôt l'inverse, vous savez, au repas de famille, quand ça commence à danser et que vos parents partent. Là-dessus, monte sur la table. Et là, c'est un syndrome qu'on évoque peu, c'est l'inverse. C'est qu'on espère être abandonné en se disant « Je ne veux pas être leur enfant, dites-moi que c'est faux. J'espère qu'ils vont partir de cette soirée sans moi. » Voilà, ça continue, vous savez, quand vous déposez à la grille de l'école, qui vous dit « Non, non, laisse-moi plus loin. Non, non, à 200 mètres. » Et puis après, c'est les groupes d'amis, vous savez, quand on part en bain de minuit et qu'on sort de l'eau entre potes et qu'il n'y a plus de vêtements, il n'y a plus de potes. Syndrome de l'abandon, première rupture, syndrome de l'abandon. Et puis sur les réseaux, on a eu énormément de questions, de remarques. Un certain Manuel V qui m'a dit « Est-ce qu'être éliminé au premier tour des élections législatives, est-ce que je vis le syndrome de l'abandon ?» Je ne sais pas. On va répondre à cette question. Ça va être dur pour vous puisque je vous abandonne dès maintenant.
Oh non. Merci Clément Lanoux. Ça sent le vécu un peu. Quelqu'un vous a abandonné le quart scolaire,
pas
tout ça ?
Pas encore.
Allez, merci Clément. On va à présent entrer plus en détail et plus sérieusement sur cette problématique avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. En studio aujourd'hui, il y a déjà Ariane Calvo. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes psychologue et l'auteur du livre L'autonomie émotionnelle paru chez Robert Laffont. Et à côté de vous, il y a aussi Alice Marchandeau. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez témoigner aujourd'hui sur ce sujet sur lequel vous avez d'ailleurs écrit un livre, vous aussi. Son titre, c'est De l'abandon à l'adoption. Alors Ariane, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous donner, pour commencer, une définition du syndrome, parce que Clément a beaucoup plaisanté sur le sujet, mais de façon plus sérieuse, la peur de l'abandon, le syndrome de l'abandon, on parle de quoi ?
On parle d'une série de comportements, un rassemblage de comportements qui se manifestent à l'âge adulte par une peur des séparations, principalement, de tout type de séparation. D'ailleurs, il y a des indicateurs plus ou moins symboliques, détester, voyager, détester, faire ses valises, détester, déménager. Enfin, tout ça, ça peut être aussi des petites manifestations du syndrome de l'abandon jusqu'à des bien plus graves. Donc, avoir très, très peur d'être quitté en particulier, qui est la manifestation la plus connue. Et ça se inscrit dès le plus jeune âge, effectivement, vraiment très petit, par un traumatisme simple ou complexe. Je reviendrai sûrement après sur ce que c'est un traumatisme simple et un traumatisme complexe. Mais ça commence très tôt dans la vie. Le huitième mois, c'est la peur du huitième mois. C'est le moment où le bébé comprend qu'il peut se séparer de sa mère. Donc effectivement, il y a une espèce de peur de l'étranger, de peur des personnes qui ne sont pas ses parents, qui commencent à cet âge-là. Mais ça se réactive ensuite. C'est comme une blessure qui laisse une trace, une empreinte émotionnelle en nous et qui se réactive à chaque situation qui pourrait rappeler une situation initiale ou des situations initiales qui ont été marquantes et traumatisantes.
Alors vous, Alice Marchandeau, je nous remets un peu dans le contexte vous concernant. Vous avez été abandonnée quand vous étiez tout petit bébé en Inde, puis placée dans un orphelinat avant d'être adoptée par une famille française. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qu'on vient de dire là ?
Oui, tout à fait. Je me reconnais dans beaucoup de choses. Alors moi, j'ai eu un abandon physique au début, ce qui fait qu'effectivement, c'est ancré en moi. Et après, dans ma vie d'enfant et même par la suite d'adolescent, effectivement, ce que je craignais, c'est toutes les situations en fait à répétition d'abandon, même une simple dispute.
Même avec un ami ?
Oui, même avec un ami, même avec mes parents encore plus. Du coup, les séparations physiques... Les déménagements, j'en ai connu plus tard, mais au contraire, moi, j'aimais bien déménager parce que parfois, il y a aussi la fuite comme comportement que j'ai pu avoir un peu plus tard. Voilà. Et puis, aussi le sentiment de plaire pour être accepté et pas être abandonné.
Ariane, est-ce que c'est fréquent ce syndrome dans la population ? Est-ce qu'on a une idée environ du nombre de personnes touchées ?
Lise Bourbeau, qui est l'auteur qui a le plus travaillé sur les blessures émotionnelles, les blessures fondatrices, elle dit que c'est la blessure qui est la plus couramment partagée dans la population, pour une raison assez simple. Dans le cas d'Alice, il y a un vrai abandon, j'allais dire. Enfin, il y a un abandon très manifeste, c'est-à-dire qu'elle a réellement été laissée par ses parents ou son parent à l'adoption. Mais avant 6 ans, un ressenti d'abandon a la même trace traumatique dans le cerveau qu'un vécu d'abandon. Oui. Donc, ça laisse des traces très, très fortes. C'est-à-dire que les blagues de tout à l'heure sur être laissé à l'école, oublié dans un supermarché, tout ça, en fait, si ça se répète trop de fois, ça peut créer à peu près la même trace traumatique qu'Alice a vécue.
C'est très clair. Merci à vous. Vous restez avec nous ce matin dans Bienfait pour vous. On tente de se libérer du syndrome de l'abandon. On vous donne des clés pour guérir des dépendances affectives et du besoin de reconnaissance qui vont très souvent avec. Si vous souhaitez en savoir plus pour vous ou pour vos proches, c'est une seule chose à faire. Restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre émission Feel Good, Mieux Vivre. Ce matin, on s'interroge autour de cette question, la peur, le syndrome de l'abandon. Comment le surmonter ? On en parle notamment avec Ariane Calvo, psychologue et l'auteur du livre L'autonomie émotionnelle, paru chez Robert Laffont, ainsi qu'Alice Marchandeau. Elle témoigne sur le sujet aujourd'hui et a écrit elle aussi ce livre, De l'abandon à l'adoption. Ariane, d'où vient-il alors ce syndrome de l'abandon ? On a dit tout à l'heure que ça pouvait très souvent remonter à l'enfance, mais c'est forcément ça, c'est forcément avant 6 ans par exemple, que quelque chose s'est passé et nous a mis en fragilité ?
Et oui, les psychologues, on est souvent accusés ou suspectés de tout trouver dans l'enfance. Mais alors, pour ce syndrome, vraiment, on ne peut pas du tout faire autrement. C'est effectivement vraiment lié à l'enfance. Par contre, ça se réactive à l'âge adulte. C'est-à-dire que toutes les situations qui pourraient nous rappeler la situation initiale ou les situations initiales où on s'est senti, où on a été réellement abandonné, vont réactiver cette blessure. Et on va avoir des réactions disproportionnées, comme si on était à nouveau en train d'être abandonné, comme si on se ressentait à nouveau abandonné. Même une fois adulte, où on n'est plus abandonnable, parce que logiquement, une fois adulte, personne ne peut nous abandonner, mais le ressenti est tellement fort et ça réactive quelque chose de tellement puissant qu'on a vraiment l'impression qu'on pourrait en mourir.
Mais ça veut dire que, par exemple, pour que ça puisse exister et que c'est existé quand on était petit, c'est quoi ? C'est des parents un peu défaillants qui, je sais pas, jouent trop à cache-cache et ils se cachent trop. Enfin, je sais pas. Je prends cet exemple, mais je me dis que peut-être on peut faire du mal à nos enfants sans le savoir.
Oui, moi j'aime bien parler d'indisponibilité parentale, qui est un peu moins jugeant que la défaillance parentale et qui nous permet de nous remettre en question en tant que parents de façon plus partagée, disons, par tous. Effectivement, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait vivre à nos enfants, pas parce qu'on pourrait leur éviter tout ressenti d'abandon, parce qu'effectivement, on vient d'en parler, c'est un peu compliqué, il y a des choses qui arrivent quoi, dans la vie, des indisponibilités réelles et légitimes, et notre enfant peut se sentir abandonné. Ce qu'on peut lui éviter par contre, c'est de ne pas mettre de mots dessus et qu'il ne comprenne pas ce qui s'est passé pour nous.
C'est-à-dire que si on a été très occupé par son travail, par exemple, et qu'on n'a pas été aussi disponible qu'on le voulait avec son gamin, il faut le lui dire.
Oui, c'est important de mettre des mots sur toutes ces choses-là. Je t'ai oublié chez la nounou ou à l'école parce que ça a été une journée très difficile et je suis désolée de ça. J'étais désolée de t'avoir fait vivre ça. Je ne voulais pas, ce n'était pas mon intention.
Donc c'est important qu'il y ait des mots pour, en tout cas, argumenter sur la situation.
Pour une raison simple, c'est que quand on a toujours besoin de donner du sens au traumatisme pour le surmonter. Et quand on n'a pas d'explication au traumatisme en tant qu'enfant, on va trouver une explication absolument et donc une explication en soi, puisque c'est la seule chose qu'on maîtrise.
C'est de ma faute. Donc.
Exactement.
Alice, est-ce que vous avez aujourd'hui, vous en avez souffert du syndrome de l'abandon, y compris à l'âge adulte, même si aujourd'hui vous allez mieux. Elle trouve son origine où, vous ? Est-ce que c'est finalement l'abandon que vous avez vécu quand vous étiez toute bébé en Inde, ou est-ce que c'est plus tard ? Elle est où la source pour vous, selon vous ?
La source, comme vous avez dit, c'est inévitablement physique à toute petite, ça, j'ai aucun souvenir, effectivement. Mais après, c'est dans les relations sociales, dans les relations amicales, j'étais assez possessive, ce qui fait que j'avais peur que la personne m'abandonne, meilleure amie. Enfin, voilà, c'était un peu sacralisé comme ça. C'était ma meilleure amie, même dans la famille. J'étais très proche de ma grand-mère qui est décédée quand j'avais 16 ans. Donc ça a été aussi un abandon.
Vous l'avez vécu comme ça en tout cas, oui.
Pas sur le moment, mais après effectivement par la suite. Donc exactement ce que vous avez dit en fait, c'est toutes les situations, les décès, les ruptures, et puis socialement même des messages, mais il n'y avait pas de téléphone portable à ce moment-là, enfin j'en avais pas en ce moment en tout cas. Mais les intonations, les mots, les...
Vous interprétiez tout.
Voilà, c'est l'interprétation, et ça, je sais que...
Parce que vous étiez dans une insécurité sentimentale, vous avez l'impression aussi, c'est ça peut-être ?
Affectivement parlant, voilà, parce que matériellement parlant, et j'ai jamais manqué de rien.
Mais quelqu'un qui vous dit à bientôt, vous avez l'impression que vous n'allez jamais le revoir, c'est ça ?
Selon qui le dit, dans quelles circonstances, mais c'est compliqué à vivre, parce que même à l'âge maintenant, adulte, en étant maman, et assez... avancé dans ma vie, même si à 30 ans, quand même avancé, il y a quand même des choses où c'est compliqué. Mes parents sont très très présents pour moi aujourd'hui. On a eu des moments où c'était compliqué, voire on a coupé les ponts à une période et ça a été compliqué. Et en discutant à cœur ouvert vraiment tous les trois sans jugement, c'était intéressant du coup d'avoir leur point de vue, et on se rend compte qu'on n'a pas forcément vécu la même histoire à certains moments.
Ariane, est-ce qu'inversement, une mère ou un père qui développerait une relation fusionnelle avec son enfant, voire un peu étouffante, pourrait aussi participer à créer chez lui cette peur de l'abandon ?
Eh bien oui, parce qu'en fait, une relation fusionnelle à son enfant, c'est un syndrome d'abandon.
Pourquoi ? Parce qu'un jour, on va l'abandonner de toutes les manières, c'est ça ?
Parce qu'on va s'en sentir abandonné à un moment ou à un autre par une forme de trahison symbolique, parce qu'il va nous préférer quelqu'un, son père, un ami, une amie, une petite amie, et qu'on va se sentir abandonné de ça. En fait,
donc là, c'est le parent qui souffre de la peur de l'abandon quand il y a ce genre de formation familiale.
Et donc, en
familiale.
Fait, ce genre de peur, ça se transmet. Alors, c'est très agaçant quand on est parent, parce qu'on voudrait bien éviter ça à nos enfants. Mais si on ne travaille pas sur nos peurs, elles se transmettent à nos enfants.
Mais est-ce qu'il y a toujours un traumatisme ? Alors, évidemment, Alice a été adoptée quand elle était petite fille. Est-ce que, finalement, ce n'est pas aussi peut-être juste des personnes qui sont hypersensibles, simplement ? Est-ce qu'il y a forcément un traumatisme au départ ?
Alors, ça peut être des personnes hypersensibles ou pas, mais oui, il y a forcément un traumatisme au départ. Après, c'est compliqué le traumatisme, parce que donc, ça peut être symbolique ou réel, enfin concret. Et c'est toujours réel pour le cerveau et pour le système corps-esprit, mais ça peut être plus théorique, quoi. Enfin, je ne sais pas trop comment le dire, mais ça peut être pas un vrai abandon, mais quelque chose qui est ressenti comme un abandon. Mmh. Et puis l'autre chose, c'est que la différence entre le trauma simple et le trauma complexe, c'est que le trauma simple, c'est les traumatismes qu'on connaît tous, l'accident de train, le viol, quelque chose de très grave, un abandon pour adoption. Et ça peut être aussi une blessure psychologique qui, si elle ne s'était produite qu'une seule fois, serait complètement passée inaperçue. Mais parce qu'elle s'est répétée trop souvent ou qu'elle s'est prolongée trop longtemps dans le temps, elle crée la même trace qu'un traumatisme simple.
Et souvent, Ariane, les dépendants affectifs renferment en eux une grande colère. Comment ça s'explique, ça ?
Eh bien, parce qu'en fait, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, les deux grandes conséquences, et Alice en a parlé tout à l'heure, de syndrome d'abandon, c'est un attachement qui est toujours insécure, mais qui peut être de deux grandes familles, on dit agrippé ou évitant. Alice, elle a parlé tout à l'heure du traumatisme, de système d'attachement évitant. C'est exactement les deux facettes d'une même médaille, c'est-à-dire que pour éviter d'être abandonné, soit on quitte avant de pouvoir être abandonné, soit on est agrippé fusionnel, comme la maman dont vous preniez l'exemple tout à l'heure, c'est-à-dire que ça crée des formes de contrôle très fortes. Et donc, des formes de colère extrêmement fortes aussi quand la personne ne se laisse pas contrôler.
Alice, je vois hocher la tête depuis tout à l'heure. De la colère, vous en avez ressenti souvent, je crois, notamment à l'adolescence. Vous étiez très en colère à l'intérieur de vous.
À l'adolescence, c'est le problème de la crise identitaire. On ne sait pas trop qui on est. On cherche un peu où on va. On ne sait pas trop. Enfin, je ne sais pas d'où je viens. Donc, il y a beaucoup de colère qui est ressortie. Et puis, j'étais à l'écart. J'étais renfermée. Je me suis réfugiée dans tout ce qui était artistique. Mais c'était la colère de pourquoi moi, pourquoi moi, parce que physiquement j'ai jamais eu de méchanceté sur la couleur de peau, les origines, ça a plus été un plus qu'un moins, mais c'est vraiment pourquoi moi et pourquoi vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a aussi marquée, mais j'ai un petit peu oublié, mais c'était vraiment, je me suis renfermée socialement, mais par contre en moi ça
bouillonnait.
Ça bouillonnait et c'est ressorti côté artistique, et puis après c'est ressorti en colère quand j'étais en âge d'être un peu plus libre, d'avoir mon permis, de faire ce genre de choses, de conduire, etc.
Ariane, comment on pourrait aider un ado qui serait dans cette situation de colère et de la peur de l'abandon ? Comment on fait pour réassurer, si c'est possible en tout cas, un ado ?
Eh ben, l'inciter à parler à tout prix. Je pense qu'une partie de la colère d'Alice aurait pu peut-être passer un peu mieux si on avait validé sa colère. C'est-à-dire que déjà, dire à un adolescent qu'il a raison d'être en colère, que c'est normal qu'il soit en colère, qu'il a toutes les bonnes raisons du monde de ressentir cette injustice parce que c'en est une. Pourquoi certains enfants sont gardés par leurs parents et d'autres non dans les mêmes conditions ? Eh ben, ça crée de la colère et c'est normal. Et c'est d'autant plus normal qu'on n'a pas d'explication. Donc ça crée un sentiment de frustration comme ça qui marne et qui ne peut pas trouver d'issue autre que d'être au moins compris par les gens qui nous entourent tout de suite.
Je comprends ce que tu ressens, c'est à minima.
Exactement.
Merci beaucoup à toutes les deux. On va poursuivre ce coup de projecteur ce matin sur le syndrome de l'abandon. Et surtout, on vous initie pour aller mieux à ce qu'est l'autonomie émotionnelle, pour mieux interagir avec soi et avec le monde. Ne bougez pas, vous êtes entre de bonnes mains avec nous sur Europe 1.
Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La peur, le syndrome de l'abandon, comment le surmonter ? On fait le tour de cette question avec nos deux invités. Toujours avec nous, la psychologue Ariane Calvo ainsi qu'Alice Marchandeau qui témoigne aujourd'hui sur notre sujet de l'abandon et nous prouve surtout qu'il est possible de le surmonter. Alors Ariane, lorsqu'on devient adulte, cette peur de l'abandon qui donc naît dans l'enfance peut poser de gros problèmes dans la vie sociale. Mais comment, par exemple, concrètement dans la vie amoureuse ou même affective au sens large, c'est possible. Expliquez-nous quelles sont les relations de couple de ces gens insécurisés au départ.
Et bien donc, si les deux grandes familles de style d'attachement qui s'expriment suite à cette blessure d'abandon sont être évitant ou agrippé, ça s'exprime de ces deux façons-là. Quitter avant d'être quitté, principalement, ou saboter la relation de couple pour en garder le contrôle et savoir exactement quand est-ce qu'on va être quitté pour s'y préparer. Mais du coup, on crée les conditions de ce qu'on craint le plus, ou être agrippé, donc c'est être contrôlant, voire manipulateur, manipulatrice,
jaloux,
possessif, jaloux, effectivement.
Ça, c'est sur le plan amoureux, affectif au sens large, on va dire. Mais est-ce que sur le plan professionnel, par exemple, le syndrome de l'abandon, il peut avoir aussi des conséquences de quelle façon, par exemple?
Un licenciement, ça peut réactiver une blessure d'abandon, effectivement. Le fait d'avoir le sentiment d'être
rejeté,
et pris au dépourvu et laissé sans ressources. Parce que le rejet, c'est très légèrement différent. Il y a vraiment un truc qui est lié à sa personne, je ne sais pas comment dire. L'abandon, c'est plus large que ça encore. On a l'impression qu'on n'aura jamais assez de ressources pour affronter la vie seule. C'est plus cette question-là que celle de ne pas mériter d'être aimé.
En tout cas, même ça peut avoir des répercussions professionnelles, ça existe
absolument.
Aussi. Hein.
Ouais.
D'ailleurs, Alice, je crois que ça a été votre cas dans le cadre du travail. Vous aviez constamment besoin d'être rassurée. Il y a même eu une responsable que vous avez vue comme une figure presque maternelle, c'est bien ça ?
Oui, oui, à une époque, j'ai eu une responsable d'alternance avec qui j'étais, c'est pas chien et chat, mais je la voyais un peu comme ma mère, en fait. Elle le sait, et j'étais vraiment en grosse crise identitaire à ce moment-là, c'est à ce moment-là où j'ai écrit le livre d'ailleurs, et j'attendais d'elle des choses qu'on attend d'une mère en fait, et c'est pas... Je savais pas trop comment l'expliquer à ce moment-là, mais j'ai fait vraiment des crises, quoi. J'étais pas bien du tout, et...
Mais
après...
vous lui demandiez quoi, par exemple, concrètement? Qu'est-ce qui... comment ça se manifestait auprès d'elle, quoi? C'était votre supérieure?
Oui, c'était ma supérieure. Rien de particulier en soi, mais c'était plus de l'attention et de valider. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Voilà. Si c'est pas bien.
Mais trop, plus que la normale.
Plus
quoi,
que la normale,
dire,
mais après, il n'y a pas de demande particulière bizarre, si j'ose dire.
Ariane Calvaux, ça doit être particulièrement. Ça doit aussi particulièrement influer sur les relations amoureuses, ce syndrome, on en a déjà dit un mot. Ce sont des personnes qui ont besoin, dans le couple, d'être tout le temps rassurées. Du coup, j'imagine qu'évidemment, c'est nocif pour eux, mais peut-être pour l'autre aussi. C'est dur de vivre avec quelqu'un qui a ce syndrome.
Pour l'autre, c'est terrible, oui, parce que d'abord, il se sent contrôlé, donc il va avoir tendance à mettre de la distance, qui réactive encore plus le syndrome d'abandon et tous les comportements associés, ceux qui empêchent l'autre d'être bien dans le couple, ceux qui créent encore plus de distance. Enfin, c'est une espèce de cercle vicieux dont on n'arrive pas à se sortir. Et puis, c'est le fait d'avoir la sensation d'un puits sans fond, c'est-à-dire que rien ne suffira jamais à combler ce vide, puisque ce vide n'est en fait pas créé par la relation amoureuse, mais par quelque chose qui s'est passé avant et ailleurs.
Donc quelqu'un qui est extrêmement jaloux, possessif, à en crever, on va dire, dans une relation, ça peut être quelqu'un qui souffre d'un syndrome de l'abandon, il faut se poser la question en tout cas.
Oui, tout à fait. C'est toujours une peur par ailleurs. Les colères débordantes comme ça, quelle que soit la teneur, la thématique qui est associée, on a l'impression que c'est juste de la colère ou de la rage, mais en fait très souvent c'est de la peur.
Donc ça veut dire qu'on peut guérir de la jalousie alors si on guérit de son syndrome
Absolument.
De l'abandon.
Si on guérit ses traumas, on peut guérir de beaucoup de choses.
Et si on a affaire à un jaloux compulsif, on peut lui dire je comprends tes peurs. On commence par ça.
Je comprends ta peur, mais je ne l'accepte pas et j'ai besoin que tu t'en occupes parce que sinon ça ne peut pas marcher entre nous. Je ne suffirai jamais. Il n'y a rien que je puisse faire qui peut soigner ta peur.
Alors vous confirmez peut-être, Alice, dans vos relations de couple, ça a été, je crois, compliqué dès le départ. Vous aviez des histoires compliquées avec des gens indisponibles. Ça veut dire quoi?
Alors, disponible, non, mais c'était la situation effectivement qui était toujours compliquée. La première fois, je me suis... la personne, en fait, m'a plus donné de nouvelles du jour au lendemain. Je venais de perdre ma grand-mère, ça faisait 2 mois, donc autant dire que j'étais vraiment au fond du trou. Et ce genre de situation s'est répété, donc j'en ai fait la conclusion que j'étais pas aimable dans le sens premier du terme. Donc voilà, c'est beaucoup de répétitions, de schémas. Un jour, je me suis dit quand même, ça serait bien de comprendre ce qui se passe. Et maintenant, ça va mieux.
Alors justement, comment vous vous en êtes sorti? Comment vous avez réussi à prendre du recul? Vous avez actuellement un compagnon et 2 enfants. Qu'est-ce que vous avez fait comme travail pour aller de l'avant et vous débarrasser, si tant est que vous en êtes débarrassé?
Jamais débarrassé vraiment, mais dans la relation de couple, en tout cas, c'est beaucoup plus apaisé. Donc c'est un travail sur soi, sur les lectures, les témoignages de gens qui s'en sont sortis, justement. C'est aussi pour ça que je témoigne aujourd'hui. Et la personne avec qui je suis, effectivement, qui... saine d'esprit, si j'ose dire.
Et vous connaît?
Comment?
Et connaît aussi vos failles, j'imagine.
Oh oui, il connaît tout. Donc ça
aide aussi.
Donc
il vous comprend déjà, j'imagine.
Il me comprend, mais pas forcément, parce qu'il n'est pas dans ce truc-là. Mais en tout cas, il l'accepte.
Ariane, justement, dans ce syndrome de l'abandon, vous parlez également de kidnapping psychique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit?
C'est qu'au bout d'un moment, le conjoint ou la personne sur qui se focalise le plus notre syndrome d'abandon n'arrive même plus à penser par lui-même, puisqu'il n'arrive à penser qu'en fonction de ce qui va nous rassurer ou pas. Et donc, il n'a plus de psychisme propre, quoi. Il n'existe que pour rassurer l'autre.
Alors Ariane, la bonne nouvelle, c'est que ça se surmonte, hein, la peur de l'abandon. C'est quoi les étapes à passer pour justement y arriver? Est-ce qu'il faut d'abord commencer par muscler sa confiance en soi ou c'est pas comme ça que ça marche?
Oui, je dirais que la première chose, c'est cette histoire de se connaître soi-même. C'est vraiment la base de la psychothérapie, mais ça marche quand même très bien. Ça a un lien avec ce que je disais tout à l'heure du fait de ne plus pouvoir être abandonnable quand on connaît bien ses ressources, parce qu'on se connaît bien soi-même et de façon un peu moins biaisée que les filtres perceptifs qui se créent suite à des traumatismes où on a un discours très tyrannique intérieurement, on se sent très nul, très incapable, etc.
Donc ça veut dire quoi? Être sûr que même si on est quitté, en fait, on va pas mourir et qu'on est suffisant à soi-même.
Qu'il va rien se passer de grave à part 6 mois à pleurer en mangeant des glaces et en regardant la
normal,
télé.
Hein.
Mais c'est ça, comme tout le monde en fait. Mais que après la vie va continuer, qu'on pourra rencontrer d'autres personnes et qu'il n'y a pas de fatalité.
Et pour se connaître, j'imagine qu'il faut faire un travail de façon accompagnée. C'est difficile de faire ce travail-là seul, non?
Alors c'est difficile, mais pas impossible. Moi j'aime bien la psychothérapie évidemment parce que je trouve qu'on va plus vite et plus efficacement parce que le psychothérapeute est formé à savoir exactement où est-ce qu'il faut travailler. Mais une technique qui est très utilisée aux États-Unis là qui s'appelle le journaling, qui est écrire à propos de soi-même tous les jours un petit peu, ça marche très très bien aussi par exemple.
C'est pas à vous qu'allez dire le contraire Alice, hein, parce que vous avez fait des thérapies bien sûr, mais il y a eu aussi l'écriture de votre livre De l'abandon à l'adoption. Est-ce que ça agit comme une thérapie, vous diriez ça?
Oui, j'ai écrit effectivement un peu tous les jours à cette période-là pendant 4 ans, mais ça peut m'arriver aussi de le faire. Et un jour, j'ai voulu en faire un recueil pour moi-même, et pour moi-même, ça a été pour les proches. Et c'est posé la question de l'autopublication, donc je me suis dit pourquoi pas, si ça peut aider au moins une personne à se reconnaître dedans, tant mieux. Et ça finit bien, on va dire l'histoire.
Et ça vous a aidé vous aussi?
Ça m'a aidé aussi à tourner la page, tout ce qui est mes origines et l'abandon de base, ça me travaille plus moins. C'est revenu à la naissance de mon deuxième enfant, mais ça revient moins, c'est plus une blessure.
On peut la faire un peu taire, ce syndrome de l'abandon, en tout cas pour le rendre vivable, c'est
ça ? Après, ça revient pas pareil, j'imagine, même à la naissance de votre deuxième enfant, c'est comme des prises de conscience de plus en plus profondes pour aller régler les choses de plus en plus loin.
Très bien. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été à nos côtés de ce matin. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Si vous souhaitez davantage d'infos sur ce syndrome, je vous rappelle le livre d'Ariane Calvo, L'autonomie émotionnelle, paru chez Robert Laffont. On va changer de sujet maintenant, Julia.
Et oui, Mélanie, dans notre séquence tendance, il y aura d'abord Soizic Belin qui va nous faire découvrir les bienfaits du chant lyrique qui serait de plus en plus à la portée de tous. Enfin, quand on chante comme une casserole, je demande à voir. Oui.
Oh, magnifique,
Mélanie. Ça ressemblait
plus à un singe qu'à un chant lyrique.
Affreux. Et puis avec Perrine Brami, on va préparer nos vacances d'été, mais des vacances qui respectent l'environnement, tout ça, c'est dans un instant et c'est sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, de retour dans Bien fait pour vous, l'émission qui fait du bien. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à midi. À présent, on va passer à notre tour de table des tendances. Il y a déjà Perrine Brami avec nous en studio. Bonjour Perrine.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous avez décidé de nous inspirer pour nos prochaines vacances, je crois.
Oui, parce qu'on peut passer un été en étant écolo. Je vais vous donner quelques petits conseils.
Bon, reste avec nous Perrine. On va commencer par la chronique de Soizic Belin. Bonjour Soizic.
Bonjour.
J'espère que vous avez fait quelques vocalises pour vous chauffer la voix avant votre chronique aujourd'hui.
Mais hein. Oui, toujours.
Alors, c'est pas vous ça, hein?
Non, c'est pas moi. C'est
j'aurais pu tricher.
C'est Maria Callas, non?
Oui, c'est ça.
Alors, pour bien débuter cette semaine, je me suis mise au défi de vous faire changer d'avis et d'a priori sur un genre musical qui a la réputation d'être chiant, voire élitiste. Alors évidemment, pour les non-initiés qui veulent rapidement se la péter, ce n'est pas un seul cours qui réussira à faire de vous des Pavarotti ou des Callas hein, en puissance, mais l'entraînement, la persévérance, une bonne hygiène de vie peuvent vous amener à des résultats assez bluffants.
Et vous avez rencontré Adeline Tognuti.
C'est ça, Adeline Tognuti qui est professeure de chant lyrique et de chant pop. Elle entraîne aussi bien des chanteurs de l'Opéra Bastille que des amateurs. C'est aussi une chanteuse. Elle reprend actuellement le répertoire de Freddie Mercury à New York. Autant vous dire qu'elle réunit deux de mes grandes passions, l'opéra et Queen. Bon, je vous fais un raccourci sur son CV hein, parce qu'on pourrait y passer la chronique entière. Mais en tout cas, voici sa réponse lorsque je lui demande si tout le monde est apte à faire du chant lyrique.
À partir du moment où vous avez un larynx, un corps et que vous arrivez à parler, tout le monde peut faire du lyrique en fait. Donc je le conseille même.
Ah, Julia, vous avez un larynx, je crois, ça tombe bien.
Non, mais moi, je dois avoir le larynx le plus pourri de France.
Ça s'entraîne.
Bon, et vous, Soizic, vous avez décidé de tester, c'est ça?
Oui, je me suis rendue à son cours. Ce sont des cours d'une heure qui ont lieu à Paris, dans les studios Luna Rossa, dans le 13e. Avant le rendez-vous, vous remplissez un questionnaire pour qu'elle puisse préparer son cours le mieux possible. Arrivée sur place, eh bien, on se détend.
On est là pour s'amuser. Alors on se place, elle se place, elle, au piano et on se lance dans l'échauffement. C'est pas la partie la plus fun, hein. Je vous le cacherai pas. En tout cas, vous l'avez compris, on va travailler les cordes vocales. C'est notre instrument, donc le larynx. On a tendance à l'oublier, hein, mais on a tous un instrument à portée de main. Alors pour le lyrique, la voix se doit d'être pure, à la différence de la pop où l'on appréciera une signature, une cicatrice, un cachet. Adeline personnalise ses échauffements et pour ma part, on a travaillé le zzzz parce que j'ai un petit nodule là et qu'on a décidé de masser les cordes vocal.
Et vous avez un extrait ?
Oui, 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 je vous embarque.
C'est bien, des journalistes qui chantent juste et tout, en rythme et tout. C'est de la triche et du coup, j'ai rien à montrer là. Vous voyez, faites-moi. Voilà, quand je chante, ici, ça va d'abord se fermer au niveau des côtes. Voilà. Et ça, ça va tomber juste à la fin. Parce que si vous faites tomber ça tout de suite pour vider vos poumons, ça va tirer votre gorge vers le bas. Donc, c'est pas génial du tout. Vous n'allez pas pouvoir faire des pirouettes là-haut. OK ? Alors, inspirez encore. Soufflez. Voilà, donc il y a ça. Donc, ça, ça va bien. Maintenant, je vais vérifier le truc fatal, les abdominaux. Je me permets. Ah, mais il y en a. Faites-moi. Hé, hé ! Hé, hé ! Hé, hé ! Hé, hé ! Voilà, les obliques s'écartent comme ça. Et, les, et votre tablette de chocolat, vous êtes vachement musclé, parce que vous avez un bébé, là.
Mais oui, parce que je chante.
Mais il n'y a pas besoin de venir en cours, alors. Eh, vous êtes musclé, là.
Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, oui.
Êtes, non, mais là, pour que quelqu'un qui a eu un bébé, c'est rare que je vois, c'est gagné, bon, quoi.
Alors, Julia, nous, on a un larynx pourri et des abdos pourris, alors c'est pas gagné.
C'est pour ça qu'on chante comme des casseroles.
C'est ça, j'ai compris, ça y est.
On a l'impression, choisi que vous nous parlez d'un training sportif. On vous a entendu mais, surtout mais, respirer,
mais,
là.
Mais oui, bien ouais. sûr, le chant nécessite un certain training, alors tant physique que culturel. Si vous voulez être un peu cohérent dans votre démarche, il va falloir connaître la base du répertoire d'opéra. Il y a aussi l'apprentissage solfège, si vous vouliez faire l'impasse, dommage. Hein. À moins que vous ayez une très très bonne oreille musicale, il va falloir s'y coller ou s'y recoller. Mais, comme je vous le disais, ça a surtout des bienfaits physiques. C'est un cercle vertueux, vous savez. Le chant vous muscle et vous vous musclez pour chanter. Mais ça a aussi des bienfaits mentaux. Faites une heure de chant tous les jours, vous verrez, ça stimule votre dopamine. On écoute d'ailleurs Adeline à ce sujet.
Alors le chant en général a énormément de bienfaits, qu'il soit du lyrique ou du pop. Après tout dépend de quel style de musique vous fait vibrer. Il y a d'énormes bienfaits sur la posture, sur l'utilisation des muscles, sur une harmonisation générale du corps entre le système nerveux, les fascias, l'utilisation des abdos, de la respiration, et puis aussi sur le niveau de l'humeur, parce qu'on va véhiculer des émotions. Donc c'est une harmonie globale du corps qui fait beaucoup de bien et qui est bon pour la santé.
Oui, parce qu'en fait, le chant lyrique, c'est aussi un jeu de comédien.
C'est ça, c'est aussi une posture. C'est pour ça qu'elle parle d'émotion. Vous êtes dans l'incarnation d'un rôle et selon votre voix, selon sa catégorie, il y a les basses, barytons, le ténor et le contre-ténor pour les hommes, et le contralto, mezzo-soprano, soprano pour les femmes. Voilà, vous pouvez incarner tel ou tel rôle selon là où se situe votre voix. Et vous l'aurez compris, donc le chant lyrique c'est bon pour à peu près tout et ça nécessite un entretien physique, un peu de solfège, de la motivation, de la curiosité et quelques notions d'acting. Hein. Donc si ça vous botte, il n'y a plus qu'à.
Elle est quoi Julia là ? Elle est au moins soprano, non ?
Il faudra un petit peu Julia, pour faire un checking vocal.
Pas mal, pas mal.
Le playback.
Mais je crois que j'ai un problème de larynx et d'ado.
C'est ça, les deux. On va corriger ça.
Eh bien, merci beaucoup, Sophie, pour cette chronique. Prie. Passons maintenant au conseil écolo de Perrine Bramy. Il fait beau, il fait chaud. Bref, ça sent bon l'été, déjà un petit peu les vacances. Perrine, aujourd'hui, vous nous donnez tous vos conseils pour préparer un été éco-responsable.
Partir. C'est moins lyrique, hein, mais partir en vacances. 55% des Français envisagent de le faire cet été selon une étude IFOP. Pour 44%, ce sera en France et pour les 11% qui restent à l'étranger. Alors, quelle que soit votre destination, vous pouvez limiter votre impact sur l'environnement avec le transport, bien évidemment, en premier. Ceux qui m'aiment et aiment la planète prendront le train. C'est 10 fois moins de pollution que la voiture et 50 fois moins que l'avion. Bon, alors, en même temps, c'est pas toujours facile hein, de partir, ouais. Notamment à l'étranger en train. Donc, si vous avez l'obligation de partir en avion, il y a quand même un petit conseil parce qu'il faut voyager léger. Selon l'ADEME, 15 kg de bagages en avion, c'est 200 kg d'équivalent CO2. Donc, c'est parti pour les tout petits mini bikinis.
Alors, le maillot de bain, justement, Perrine, c'est le partenaire indispensable de nos vacances. On le choisit comment si on veut un été green ?
Alors, le problème avec les maillots de bain, c'est qu'ils sont souvent fabriqués avec des fibres synthétiques qui sont issues de l'industrie pétrochimique. Le polyester ou le nylon, pour les plus communs, ce qui n'est pas bon pour notre peau ni pour la planète. Et pour cause, pendant la baignade, il libère ses maillots dans l'eau des microfibres plastiques. Donc, on opte pour un maillot éco-responsable. Comment ? Eh bien, évidemment, en choisissant des matières dites éthiques, comme le coton bio, parce que sa culture ne met pas en danger l'environnement et qu'elle respecte aussi la santé et le savoir-faire des agriculteurs. Alors, pour ne pas se tromper là-dedans et faire le tri, il y a le label OECOTEX, par exemple, qui peut vous aider. Il garantit notamment qu'il n'y a aucun composant chimique dans le produit.
Oui, il y a ça écrit sur mon maillot. Et ah vous, oui, Julia, vous n'en avez pas de maillot aussi?
Non, je n'ai pas encore choisi le maillot de mon été, en tout cas. Mais j'ai l'impression que ça devient tendance, les maillots responsables, Périne.
Oui, parce que c'est une manière pour les marques de se distinguer les unes des autres. Mais il y a vraiment des gens et des marques qui sont véritablement investis dans l'utilisation de matériel, de matières innovantes. Et alors, parmi elles, ces matières, il y a l'éconil, par exemple. C'est une nouvelle matière qui est de plus en plus répandue. L'éconil, c'est une fibre obtenue à partir de recyclage de déchets marins, notamment comme les filets de pêche. C'est une matière qui est en plus recyclable à l'infini.
Pourquoi vous rigolez ?
Vous y voyez, Julien, un filet de pêche.
J'imagine avec le maillot filet de pêche, Mélanie.
Ça m'irait très bien, je suis sûre.
J'ai l'image.
Cette matière, l'éconil, elle est utilisée notamment chez Luce Collection, qui propose des maillots vraiment jolis et pas trop chers. Donc on peut y aller. Il y a la marque également Maline, qui de son côté, elle crée des maillots de bain de fabrication française. Ça se passe en région Rhône-Alpes et en tissu recyclé. C'est un peu plus classique au niveau des coupes, mais tout est certifié OECOTEX, donc on peut y aller les yeux fermés.
Donc Luce, ça s'écrit L-U-Z, Luce Collection, hein, pour la marque que vous avez citée juste un peu plus tôt. Alors, ok pour le maillot, Périne, l'autre indispensable sur la plage, c'est évidemment la crème solaire, surtout pour les enfants. Comment on la choisit ?
Alors, il faut savoir que l'immense majorité des crèmes solaires du marché, elle n'est pas bonne pour la peau ni pour l'environnement. La plupart contiennent en effet des conservateurs, comme le parabène, qui sont des perturbateurs endocriniens, c'est dangereux pour la santé. Il y a aussi des silicones et des parfums de synthèse qui peuvent créer des allergies. Donc, on choisit un produit de préférence bio, si on trouve, qui contient souvent des actifs d'origine naturelle. Alors, les marques bio, faut pas se mentir, il y a quelques années, c'était pas encore ça. Hein, mais il y a eu de gros progrès jusqu'à présent. Enfin, il y a encore quelques années, voilà. On était tout blanc à la plage. Franchement, ça le faisait pas. Ça le faisait pas trop. Mais aujourd'hui, il y a un vrai mieux. Il y a des vrais progrès. Donc, on peut y aller. Il y a un autre problème sur les crèmes solaires. Ce sont les filtres UV. Quand ils sont chimiques, ils sont nocifs pour l'environnement.
Oui, mais moi, j'ai jamais compris pourquoi, justement, on nous dit que la crème solaire, c'est mauvais pour la planète, Périne.
C'est vrai que le lien, il n'est pas évident. Non. Donc, en bref, au contact de l'eau, du soleil et de l'oxygène, ces filtres UV forment des composés chimiques qui vont détruire une microalgue. Cette microalgue, elle est nécessaire pour les coraux, pour se nourrir et se maintenir en vie. Du coup, ces coraux, ils vont blanchir et finir par mourir. Bon, c'est schématique, mais c'est assez important puisqu'il suffit de 15 minutes de baignade pour que le quart de notre protection solaire qu'on vient d'étaler sur la peau se dilue dans la mer. Oui. Et résultat, ça fait 25 000 tonnes de crème solaire qui sont déversées dans les océans chaque année, à tel point que le Costa Rica, l'Australie et le Guatemala ont même carrément interdit ces produits sur leur plage.
Ah oui.
Alors du coup, le mieux, c'est de se tourner vers des crèmes solaires à filtre minéral et non chimique. Alors, moi, j'en ai testé énormément, mais je vous recommande, les Laboratoires de Biarritz, c'est une marque qui est très prisée des surfeurs. C'est un peu cher, mais elles sont vraiment top. Elles sont composées uniquement d'ingrédients biodégradables, non toxiques sur les organismes marins. Et une petite marque aussi qui est vraiment bien, c'est une marque belge qui s'appelle Biosolis et qui utilise des filtres minéraux naturels sans nanoparticules.
Donc là, il n'y a pas de chimie là-dedans, hein, dans les crèmes que vous voulez nous donner. Donc on ne pollue pas quand on va avec dans les océans ou la mer.
On ne s'abîme pas la peau et on ne pollue pas la mer.
Et dans les laboratoires de Biarritz, Benjamin Lévesque, dans sa chronique beauté, il y a quelques semaines, nous avait parlé de cette marque, justement, où il y a des couleurs en plus, genre flashy, rose.
Ah oui,
pour les enfants, c'est assez rigolo, plus facile pour les motiver, pour mettre ces filtres-là. On n'est pas obligé de rester bullé sur le sable, mais même si c'est très agréable, on peut aussi être actif pendant les vacances et actif de façon écolo. Alors comment ?
Et pourquoi pas s'engager plutôt que d'effectivement de rester allongé sur le sable ? On peut aussi se bouger un petit peu en participant notamment à une opération de nettoyage des plages. Renseignez-vous auprès des associations locales, il y en a beaucoup. Parmi elles, il y a évidemment l'ONG Surf Rider Foundation qu'on connaît, qui organise des initiatives océanes, des opérations de ramassage des déchets qui ont lieu sur tout le littoral français et dans 40 pays. On clean les plages, on se reconnecte à la nature et en plus on peut faire des rencontres. Et si en plus il y a Bixente Lisa Razou qui s'y met, alors je sais pas vous, mais moi je fonce.
Vous avez donné l'argument qui va plaire à Julia pour aller nettoyer des plages cet été.
Ah oui, j'y pensais, ça faisait partie de mon programme de cet été. Non mais sans rire, pour nos enfants, c'est vachement bien aussi.
Très bien, hein, effectivement.
Pour les sensibiliser.
On les motive dès le plus jeune âge et on passe un bon moment en famille. Merci beaucoup, Périne, pour toutes ces idées de vacances qui chouchoutent en plus notre planète. C'est parfait. Voilà. Merci à tous d'avoir été à nos côtés ce matin. Bien fait pour vous. C'est terminé pour aujourd'hui, mais nous serons évidemment de retour demain. Julia, on va s'intéresser à quoi demain ?
Eh bien, demain, Mélanie, on va proposer un éclairage sur le
TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. On va voir que ces troubles ne concernent pas que les enfants, mais aussi les adultes. Et on va tout vous dire comment eh bien, mieux les vivre, ces troubles au quotidien. Même quand on est adulte, on va tenter de vous faciliter la vie comme d'habitude.
En attendant, place à l'info sur Europe 1, car à suivre, c'est Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Romain, bonjour, quel est le programme ?
Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Ce matin, aujourd'hui, enfin en tout cas à midi, là dans Europe Midi, on va parler des résultats des législatives.
Évidemment.
Hein, de ce premier tour. Est-ce que vous voulez donner la majorité absolue à Emmanuel Macron ou pas ? Est-ce que la poussée de la gauche radicale, la NUPES, vous inquiète ? Vous appelez le 3921 et vous passez à l'antenne. On sera également avec Prisca Thévenot, qui est porte-parole de La République En Marche, et avec Antoine Léaumont, qui est responsable de la communication numérique de la France Insoumise. Voilà, il y aura une surprise, tiens aussi.
Ah, on aime beaucoup les surprises. Ouais. On sera au rendez-vous. Merci beaucoup, Romain. À tout de suite.
À tout de suite.